voudrais d'abord prier. Merci, Papa, pour les temps dans lesquels nous vivons. Merci pour l'esprit que tu nous as donné. Jésus est monté auprès de toi et nous a envoyé l'esprit. Et nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Merci de nous conduire, Anne-Luc et moi, que vraiment tu mettes ta parole dans nos bouches pour ces temps dans lesquels nous sommes. Merci de te révéler comme Père, de continuer à te révéler comme Père au milieu de nous. Amen. Alors, on avait vraiment à cœur de parler de Rosh Hashanah et cette année du jubilé. David, s'il te plaît, il continue à descendre. Et pourquoi il descend? Parce qu'il descendait tout seul. Ah. Il faut que je prenne celui-là, alors, ouais. Et donc, on avait vraiment à cœur de parler de Rosh Hashanah, mais cette semaine, donc vous savez que dans la tente de la rencontre, on a un créneau particulier où on porte Israël. Et cette semaine, alors qu'on se retrouvait pour ce temps-là, le Seigneur m'a donné vraiment une perspective particulière qui, je crois, est importante, parce que souvent on dit, mais pourquoi Israël? Pourquoi les fêtes juives? Pourquoi est-ce que c'est des rites? Qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr, je ne vais pas répondre à tout ce matin, je voudrais juste donner quelques perspectives. Alors, d'abord, le Seigneur me rappelait, et on le voit dans toutes les fêtes, qu'il est d'abord le Créateur. Il est le Créateur, il est le Dieu Père, et il est le Dieu Saint. Dieu est créateur, ça j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Dieu Père, la chanson de ce matin, merci au bout, c'était tout simplement extraordinaire. Vraiment, ce qu'on a chanté ce matin, c'est Dieu Père, il est comme ça notre papa. Et il est le Dieu Saint, et souvent ça, c'est quoi Saint? C'est, pour moi, on pourrait le mettre en parallèle avec lumière. C'est le Dieu de la lumière. Saint, ça veut dire qu'en lui, il n'y a point de péché. Saint, ça veut dire qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Il est le Dieu Saint. Et vous savez, il est dit qu'il nous a arrachés de la puissance du royaume des ténèbres. Il nous a transplantés dans le royaume de sa lumière. Ça fait partie de ce que Christ a fait pour nous. Donc il est le Dieu Saint. Il est notre Créateur. Et vous savez, au début, Dieu était en communion avec Adam. Et il était en communion comment? Il était en communion par le Saint-Esprit. Tout à l'heure, Thierry nous l'a rappelé. Si Dieu retirait son souffle de nous, nous tomberions immédiatement. Si nous nous tenons debout aujourd'hui, c'est parce que le souffle de Dieu est en nous. Et alors, vous savez, donc Dieu venait visiter Adam tous les jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'en fait, il y a trois choses aussi, vous savez, il est dit que qu'est-ce qui va demeurer à jamais? La foi, l'espérance et l'amour. Et en fait, si on regarde Dieu Père, Dieu est amour. Et cet amour est appelé à durer pour l'éternité. Et comment cet amour peut durer? C'est parce qu'on a confiance en lui, parce qu'on connaît notre papa, on sait combien il est bon. Et ça nous donne de l'espérance. Ça nous donne de l'espérance parce qu'on sait qui est Dieu. Il est ce Dieu d'amour, comme on l'a chanté ce matin. Et ça, c'est l'espérance. Et la foi. Et il n'y a pas de foi sans confiance. L'espérance, elle est censée produire la foi. Et la foi, elle peut être produite si on a confiance en Dieu. Et vous savez, et c'est là que je voudrais venir ce matin, c'est il nous est parlé de l'obéissance de la foi. Il nous est dit que c'est dans, je ne sais plus où c'est, où il est dit, Paul dit, Dieu nous demande de ramener le monde, de ramener les païens à l'obéissance de la foi. Donc, c'est quoi l'obéissance? C'est quoi l'obéissance? Est-ce que l'obéissance, c'est par contrainte? C'est parce qu'on doit recevoir quelque chose par l'obéissance. C'est quoi l'obéissance de la foi? Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc Adam était dans le jardin d'Éden. Dieu ne lui avait pas donné beaucoup de consignes. Il lui avait dit, voilà, tout est à toi. Tout est pour toi. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas manger de l'arbre. Donc, quelque part, c'était une obéissance de la foi que Dieu lui demandait. C'était le moyen de tester l'obéissance d'Adam et la foi d'Adam en Dieu. Croire que Dieu était bon, lui faire confiance. Et par cette obéissance-là, on pouvait mesurer cette confiance que Adam avait en Dieu. Mais Adam n'était pas encore sûr de qui il était. Dieu n'avait pas encore eu le temps de lui enseigner tout ce qu'il voulait lui enseigner. Et l'ennemi est venu et lui a dit, mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu a dit, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et là, le doute est venu, la confiance est perdue et elle s'est immédiatement manifestée par la désobéissance. Donc Jésus, lui, il est venu pour nous ramener à l'obéissance de la foi. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il est dit qu'à ce moment-là, on a été séparés de Dieu. Notre esprit a été coupé de son esprit. Nous sommes faits à l'image de Dieu et tout d'un coup, l'image de Dieu était perdue. Mais Dieu avait un plan de rédemption et un plan de restauration. C'est un salut plus grand. Et c'est quoi ce plan de rédemption? Donc Dieu est un pédagogue extraordinaire. Il a choisi un homme, Abraham. Et il est notre père pourquoi? Il est notre père de la foi. C'est le père de la foi. Et il nous est dit qu'il a obéi à Dieu parce qu'il connaissait son papa. Il savait qui était son papa et il lui a fait confiance et il a fait l'obéissance de la foi. Donc Abraham était un homme qui connaissait Dieu, qui marchait avec Dieu, qui faisait confiance à Dieu. Et ça se manifestait par l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Et donc Dieu a choisi Abraham et ensuite il a créé un peuple de la descendance d'Abraham et il a donné la loi. Et cette loi c'était quoi en fait? C'était pour se refléter, c'était pour donner l'image de qui il était. C'était pour qu'on comprenne qui était Dieu. Et c'est extraordinaire parce qu'il nous est dit que Dieu aime se refléter. Et il se reflète de plusieurs manières. Il se reflète au travers de sa création. Si on regarde la création, on voit les bontés de Dieu. Il se reflète au travers de la parole. Et il est dit que Jésus, il est la parole. Donc quand on cherche, il se reflète au travers de la parole. Et dans cette parole, il se reflète au travers de cette loi. Et entre autres des fêtes. En fait, par la fête, Dieu veut se révéler comme Père. C'est Dieu se révèle et il veut se révéler et il veut bâtir en nous la confiance qu'il est un bon papa. Et vous savez, il est dit dans l'Ancien Testament que les fêtes, c'est l'ombre des choses à venir. Que la loi est l'ombre des choses à venir. Elle est l'empreinte. Elle est le reflet. On ne voit pas encore complètement. On ne voit pas tout, c'est un reflet. Et simplement, tout ça pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a la loi que le peuple d'Israël a, avec beaucoup de persévérance et d'obéissance, a obéi et a permis qu'elle soit transmise jusqu'à aujourd'hui. On a les prophètes qui nous ont annoncé les choses à venir. Mais maintenant, j'en reviens au point que je voulais souligner pour introduire ces fêtes. Vous savez, au moment de la transfiguration, Élie est apparu sur le mont de la transfiguration. Donc la transfiguration, c'est-à-dire que tout d'un coup, des choses sont apparues. Et il y a eu Moïse, celui qui a apporté la loi, et Élie, qui est considéré comme un grand prophète, qui sont apparus à côté de Jésus. Et Jésus, lui, était en chair, et tout d'un coup, il est devenu resplendissant, et à ce côté, il y avait Élie et Moïse. Alors, vous imaginez, pour les apôtres, c'était incroyable. Tout d'un coup, ils voyaient Moïse, qui était celui qui avait porté la loi, Élie, qui avait fait tant de miracles, c'était extraordinaire. Et alors là, Pierre était complètement bouleversé, il dit, oh là là, on devrait, Jésus, est-ce que tu veux qu'on monte trois tentes? Il voulait rester là, quoi. Super, les plus grands pères de la foi, Moïse d'un côté, Élie de l'autre, Jésus, quoi de plus quoi, restons là. Et en fait, le Père des cieux parle et il dit, voici mon fils bien-aimé, Jésus, écoutez-le. Et en fait, quand il dit écoutez-le, ça veut dire n'écoutez plus Moïse. Et il disait quoi à Moïse? Moïse disait, il y a une loi et tu dois obéir à toute la loi et tu dois faire tous tes efforts. Parce que si tu ne fais pas tous tes efforts, eh bien tu ne pourras pas entrer, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Donc Dieu dit, n'écoutez plus Moïse. Et Élie disait quoi? Demain, un jour vient, Dieu va accomplir dans le futur. Il dit, n'écoutez plus Élie. Et pourquoi? Parce que c'est le maintenant de Dieu. Christ a accompli toute la loi. Il l'a accompli pour nous, il s'est rendu obéissant, il a obéi à notre place. Jésus a bien montré aux pharisiens, il a rendu la loi encore plus difficile. Il a dit, si Moïse vous a dit, ne tuez pas, moi je vous dis que celui qui traite son frère d'imbécile est déjà meurtrier. Qui n'a pas traité son frère d'imbécile? Levez la main. Qui n'a jamais traité quelqu'un d'imbécile? Quand on dit son frère, ce n'est pas que le frère de chair, hein. Oui, mais frère, j'ai dit pas dans la chair. Pas dans la chair. Voilà. Personne. Et après, il a dit, Moïse vous a dit, tu ne commettras pas l'adultère. Il a dit, mais celui qui a convoité la femme de son frère est déjà adultère, etc. Et il reprend chaque commandement et il les rend encore plus compliqués, quoi. C'était pour dire, eh oh, tu peux pas y arriver tout seul. C'est pas toi qui vas pouvoir le faire. Et ensuite, aux pharisiens, il leur a dit, maudit êtes-vous parce que vous avez empêché les gens d'entrer. À cause de comment vous avez présenté la loi et faire croire que vous allez y arriver vous-même, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Donc, le Père dit, ce n'est plus le temps de la loi. Jésus est venu accomplir toute la loi. Il a obéi à notre place. Et cette obéissance est le fruit de son obéissance, qu'on appelle la justice. Il nous l'a donnée en héritage. Et vous savez, Jésus a dit tout le long, maintenant, le royaume de Dieu s'est approché. C'est pour maintenant. Pour ceux qui croient, c'est maintenant. Le temps des miracles et des guérisons, c'est maintenant. C'est le maintenant de Dieu. C'est plus pour demain. Tu peux pas dire, ah oui, mais quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, alors, non, c'est maintenant. Les promesses de Dieu, c'est maintenant. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est maintenant, c'est maintenant. Et donc simplement, je voulais vous introduire dans ces temps de fêtes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces fêtes? Dieu les a ordonnées, pourquoi? Parce que c'est un pédagogue et parce que c'était les ombres des choses à venir que Jésus accomplit. Et Jésus est en train d'accomplir, et ça c'est tout un message. Déjà les fêtes vont s'accomplissant et ce sont les temps de la fin. Mais les temps de la fin, c'est les temps d'accouchement, c'est les temps d'un renouveau. C'est le temps de l'Église qui va renaître, c'est le temps où Jésus revient. Et là, je veux en revenir encore à une chose très importante, c'est que Dieu ne va pas le faire sans Israël. Et on est dans ces temps de maintenant, et j'encourageais plusieurs, quand on relit les livres prophétiques, pensons toujours que c'est d'abord pour Israël. C'est pour ça que ce matin, qu'on a parlé de Rosh Hashanah, on l'a d'abord proclamé pour Israël. Et vous savez, on a été comme les pharisiens. Nous avons fermé la porte aux Juifs, disant qu'ils étaient coupables. Et là, je voudrais juste vous lire deux versets qui, pour moi, sont très importants. Et c'est vraiment dans cette perspective que nous voulons le lire. Alors, bien sûr, je ne l'ai plus. Hein, c'est Romains 3, 14, je crois. Tu peux regarder, s'il te plaît, dans le sac, c'est un petit papier orange. Oui, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Ça n'a pas l'air, mais c'est celui-là, parce qu'il y a plusieurs choses dessus. Ça, c'est moi, ça. Romains 3, 10. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on l'ait comme base. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre. Pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non pas, pas même un seul. Et il est dit que Dieu l'a permis parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Il y a un seul juste, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul juste, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un qui a pu obéir complètement, c'est Jésus-Christ. Et s'il n'est pas fidèle pour Israël, le serait-il pour nous? S'il a obéi parfaitement pour nous, est-ce qu'il ne l'a pas obéi aussi parfaitement pour Israël? Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, j'aimerais qu'on prenne Romains 11, 32. J'ai des lunettes, mais... Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Il a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Et il est dit aussi dans Romains, vous pouvez relire Romains, qu'il a permis que le peuple juif tombe dans l'aveuglement afin que nous soyons sauvés. Ils ont été comme aveuglés pour un temps afin que nous soyons sauvés. Ils n'ont pas été aveuglés à cause de leur péché, parce que tous nous avons péché et tous nous avons été privés de la gloire de Dieu. Ils ont été aveuglés afin que nous puissions entrer. Mais c'est pour un temps. Et il a dit que quand nous serons tous entrés, alors le temps va venir pour que leurs yeux s'ouvrent. Et Paul dit, si le fait qu'ils aient été aveuglés a été pour nous une bénédiction, le fait qu'ils aient été comme retranchés pour un temps a été pour nous une bénédiction, que va être la greffe, le retour des Juifs qui vont ouvrir leurs yeux et reconnaître leur Messie. Mais vous savez, le chemin a été dur pour eux. Ils ont cru qu'ils étaient abandonnés. Les apparences étaient trompeuses, croyons-le. Et nous, chrétiens, on a montré un faux Christ. Donc on a encore alourdi le poids. Et beaucoup ont perdu la foi. Les humanistes, par exemple, certains, ce sont d'abord des Juifs. Les libres penseurs, ce sont d'abord des Juifs. Pourquoi ? Et ça a été fait pour nous. Et vous savez, on a été nous-mêmes modelés par un faux évangile. Et la preuve, quand on lit les livres des prophètes, on les prend d'abord pour nous, souvent. On oublie que c'est d'abord pour eux. Mais nous sommes dans des temps particuliers. Dieu est le Seigneur des temps. Il est le Créateur de toutes choses. Et c'est le temps maintenant où Dieu veut réveiller à nouveau Israël. Et nous, en tant que fils et de filles, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu est en train de faire pour le faire avec lui. Ça n'est pas une fin en soi. C'est une étape et c'est prioritaire actuellement que les Juifs entendent et comprennent qui ils sont et qui est Dieu pour eux. Et alors simplement, à chaque fois, et c'est pour ça qu'on est conduit à le faire régulièrement, dans l'esprit, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est de réouvrir la porte pour le peuple juif et les appeler maintenant à la connaissance de Yeshua. C'est vraiment le temps. Et on est dans ces temps de jubilé où Dieu va faire résonner les trompettes, d'abord pour eux et ensuite pour nous. C'est pas une histoire de supériorité, c'est une histoire de priorité. Alors que l'on comprend ce que Dieu fait et que l'on se met d'accord avec le ciel pour ces temps dans lesquels nous sommes. Et vous savez, tous les signes dans le ciel, on en a parlé, c'est pour eux premièrement. C'est comme on a vu des gens qui évangélisent les Juifs aujourd'hui en Israël. Ils prennent les signes des cieux et ils leur montrent que ces fameuses lunes rouges ont marqué des temps très précis et ça montre la seigneurie de Dieu. Et c'est comme si c'était le temps de leur dire, vous avez cru que Dieu vous avait oublié parce que c'était très dur, mais non, Dieu était en contrôle. Réalisons le prix que ce peuple a payé pour nous et ayons de la compassion, ayons le cœur de Dieu et joignons-nous dans ce temps d'enfantement pour eux parce que s'ils n'étaient plus là pour appeler Jésus, Jésus ne pourrait pas revenir. Parce que c'est ensemble que nous allons appeler Jésus. C'est ensemble que nous sommes appelés à appeler l'époux. Donc voilà, c'était l'introduction pour les fêtes. Donc sachons que c'est l'obéissance de la foi. Nous n'obéissons pas pour acquérir quelque chose, mais l'obéissance de la foi, c'est parce que nous connaissons notre papa. Et alors nous obéissons. Et donc obéir, c'est quand on célèbre les fêtes, c'est une façon de révérer Dieu, c'est une façon de se soumettre à Dieu, c'est une façon aussi de manifester notre obéissance. Et dans ces fêtes, c'est le planning de Dieu. C'est pas nous qui disons, on choisit de faire, ah oui, tiens, maintenant. Non, Dieu, il a planifié de toute éternité, il a fait son programme et il a voulu nous le révéler. Et il a voulu nous le révéler. Ayons cette humilité. Et d'ailleurs, je voulais encore, je finis par là, ce verset qui dit ceux qui prient, humilient et cherchent ma face. Je me révélerai à Dieu. Donc, s'humilier, c'est pas suffisant parce qu'on peut dire oui, Seigneur, tu es Dieu. Prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître qu'on a besoin de lui. Ça veut dire abandonner notre indépendance. Ça veut dire qu'on ne peut pas y arriver tout seul. À chaque fois qu'on prie, ça veut dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ensuite, donc, et me cherche. Dieu aime qu'on le cherche. Je crois que c'était Alana qui avait dit ça. Mais Dieu aime qu'on le cherche. Il aime qu'on le cherche. Et la parole, elle dit dans plein d'endroits, celui qui cherche trouve. Dieu aime se faire trouver. Et il s'est caché dans la création. Il s'est caché dans les fêtes. Il s'est caché en Jésus. Et il est dit qu'il a déchiré le voile. Il y a des voiles. On ne voit encore pas parfaitement, mais il est dit que par sa lumière, on voit la lumière. Demandons la lumière qui vient d'en haut. Demandons l'esprit de révélation. Et cherchons Dieu ensemble et personnellement. Et on est dans ces temps extraordinaire, où il est dit que la lumière vient croissante et que la révélation de la justice, elle germe promptement sur la terre, afin qu'il y ait un peuple qui sache qui est Dieu, qui il est, et qu'on puisse accueillir l'époux en tant qu'épouse.
Super Manu, ça coule hein, alléluia, mais on veut, c'est un peu une prédication en trois voix et j'aimerais simplement, en fait ce qu'on a vécu ce matin, c'est simplement ce que j'aimerais dire en mots. C'est souvent dans cette église, on a un cœur, un message de Dieu et en fait on le vit avant qu'il soit donné et c'est vraiment ce qu'on a vécu ce matin. Donc les fêtes c'est des rendez-vous de Dieu, on aime les rendez-vous, il aime les rendez-vous. Et c'est des rendez-vous particuliers. Tous les jours sont des rendez-vous, mais il y a des jours particuliers de rendez-vous. Donc c'est un rendez-vous pour se souvenir. Emmanuel l'a dit, but de mémoire, se rappeler. Vous sonnerez du chauffard, dit la parole, et vous serez présent en souvenir de l'Éternel. Alors le chauffard, on en a parlé un peu, mais c'est associé à la guerre, au combat, rassemblement des guerriers. C'est associé au pardon, on l'avait avec Abraham, Isaac, le bélier qui est mort à la place. Le chauffard, ça parle de la simplicité de Dieu, de la réconciliation. Le chauffard, ça parle aussi de la présence de Dieu. Parce que quand la loi a été donnée, c'était le son des chauffards, partout, on l'entendait. Et la voix de Dieu qui parlait lorsqu'il y a eu la loi a été donnée. Et le son du chauffard, il est dit qu'il... nous sommes à la fête des chauffards. C'est comme ça qu'on l'appelait, la fête des chauffards. Et c'est l'annonce d'une victoire. Alors c'est déjà l'annonce d'une victoire qui est déjà maintenant, mais qui est encore à venir. On est dans un temps entre le déjà qui est fait de Dieu et le pas encore. Donc, une chose aussi, c'est qu'il y a un truc que je ne comprenais pas. Je me dis, comment ça se fait que dans le calendrier juif, le nouvel an, normalement, ça commence au printemps. Ça commence au printemps. Et puis là, on dit pour Rosh Hashanah que c'est la nouvelle année. Il y a un truc qui ne va pas, je ne comprends pas. Et alors j'ai regardé un peu, et bien figurez-vous que le fait que les Juifs fêtent la nouvelle année, c'est en souvenir d'un épisode au temps de Néhémie, extraordinaire. Ils avaient rebâti l'autel avec Esdras, rebâti la muraille, et il y a un moment, Néhémie convoque tout le peuple. Néhémie chapitre 8. Et on lit la loi au peuple. Cette loi des plus petits aux plus grands, toute la journée. Et non seulement on lit la loi, mais il est dit, on l'explique. Donc un rôle pédagogique. Imaginez le peuple entier qui est là et qui entend cette... Et à la fin, ils étaient touchés par l'Esprit de Dieu. Ils ont dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Ils se sont mis à pleurer. Conviction de péché devant cette loi qu'ils n'avaient pas suivie. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, vous avez la parole extraordinaire qui dit, mais réjouissez-vous. C'est un jour de joie. Parce qu'ils ont dit, on refait alliance avec toi, Seigneur. Néhémie a dit, écoutez, arrêtez de vous lamenter, c'est un temps de célébration, de joie intense. Et à cause de ce réveil-là, ils ont dit, tous les ans, c'est comme une nouvelle année. Et c'est ça qu'on fête aujourd'hui, c'est ce réveil de la parole de Dieu. Ce réveil après avoir bâti la muraille, pourtant ils avaient besoin encore de cette révélation de Dieu. Et on voit que le vin, l'huile, tout a coulé après. Un peuple entier. Donc c'est ça. Et on parle de jubilé. En français, nous avons le mot « je jubile ». C'est très fort, jubilé. C'est plus que rire. Jubilé, c'est plus qu'être joyeux. Tu ne peux pas te contenir. On a certains cas dans notre église de gens qui jubilent régulièrement. Mais le jubilé, c'est ça. Et ça fait partie de cette période de jubilé qui est annoncée dans les fêtes. Et le son du chauffard, ça nous rappelle, ça anticipe une victoire que Jésus remportera, mais qui sera totale à son retour. Donc le jubilé, alors c'est dans Lévitique 25, on a ce que c'est ce jubilé, parce qu'on peut se dire, mais ça veut dire quoi ce jubilé? Il y a plusieurs choses, je vais aller vite, mais le repos de la terre. Alors on laisse la terre se reposer, on ne sème plus, on ne moissonne plus. On laisse la terre se reposer, le jubilé, c'est tous les 50 ans. Hein. Il y a tous les 7 ans, il y a une année de sabbat pour la terre, et tous les 50 ans, on fête le sabbat plus une année de jubilé. Donc décidément, on va dire, mais qu'est-ce qu'on va manger si on ne sème pas? Et Dieu dit, je vais pourvoir. Donc c'est un sacré test de foi. Ça veut dire que j'accepte par mon choix de ne pas semer que je dépends de toi. Et Dieu dit, parce que tu fais ça, ta récolte sera abondante pour 2 ans. Tu auras une grande récolte. Donc le repos de la terre, et ça nous montre aussi que la terre appartient à Dieu. Le sens de cette fête, c'est ça. La terre appartient à Dieu. Elle était confiée aux hommes comme des gestionnaires, mais elle est un cadeau du Créateur, donc pas à surexploiter. Elle doit servir au bonheur de tous et pas de certains. C'est vraiment ça l'idée. Et puis alors, c'est un truc extraordinaire. Vous savez ce qu'ils faisaient les Juifs à cette fête ? Ils devaient proclamer la libération de tous les hommes sur tout le pays. C'était les chauffards et on proclame la liberté, nous, peuple français. On aime la liberté, hein. On aime liberté, égalité, fraternité. Ben le Rosh Hashanah, c'est l'annonce de la liberté pour tous les hommes. Cette liberté en Jésus. Mais c'est une, on voit ça dans le Lévitique 25. Et vous avez un mécanisme. Tous les surendettements étaient brisés. Tous les gens qui avaient des dettes, hop, on enlève les dettes. Tous les gens qui avaient eu leur propriété prise, on leur redonne l'héritage par famille. On leur redonne les terres qu'ils avaient perdues. C'est ça le jubilé. Et ça, mes amis, ça annonce, ça parle de Jésus. Ça parle de ce que Jésus est venu faire. Le jubilé. Quand on creuse un peu cette fête, on se rend compte que le salut en Christ, c'est pas seulement pour être réconcilié avec Dieu, mais c'est pour prendre un héritage qu'il nous donne aussi sur la terre. Et ça, c'est vraiment... Les Juifs sont pratiques, si vous voulez. La mentalité hébraïque, elle est pratique. Nous, beaucoup de chrétiens, on a été complètement mystiques. C'est-à-dire, la terre, on s'en fout. Nous, on est dans le ciel. Mais c'est pas ça. Il y a une prise de terrain. Et je crois que ce lieu où nous sommes, ça fait partie d'un des héritages. On aurait très bien pu dire, ben nous on est une église, on n'a pas besoin de lieu pour prier. Mais Dieu est un lieu concret aussi. Et il veut qu'on ait des héritages. Et en tant que parents, nous avons des héritages à transmettre aux enfants. Ça se passe, c'est des choses pratiques, matérielles. Donc là, Dieu le Dieu de la terre, Dieu le Dieu qui libère les esclaves, ça c'est le jubilé. Et le jubilé, c'est un mécanisme économique qui brise les inégalités sociales. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Il y a une conséquence au niveau économique et social énorme pour un peuple qui applique ces lois. Quand on regarde les lois de l'Ancien Testament, qu'on se dit la crise économique aujourd'hui, je peux vous dire, il y a une énorme sagesse dans ces lois parce qu'elles reflètent Dieu. Et le cœur de Dieu. Donc voyez, vraiment, l'amour de Dieu, cette fête nous montre, l'amour de Dieu est inséparable de l'amour pour ses frères et pour ses sœurs. Et la remise des dettes, alors c'est fabuleux, cette remise des dettes. Et Jésus, il a remis toutes nos dettes. On avait des dettes envers Dieu. Il a dit, allez, on efface tout, t'as plus de dettes. Terminé, plus de dettes. Donc ça, la dette par rapport au péché, la dette par rapport à tout ça, c'est effacé. Les compteurs sont remis à zéro. Donc tous les 50 ans en Israël, on devait remettre. Ça n'a pas été appliqué, très peu appliqué dans l'histoire d'Israël. Mais ça parle de Dieu, hein. Ça parle de ce que Jésus est venu faire et ce qu'il veut faire. Et en effaçant les dettes, l'année jubilaire, elle permet à tout à chacun de retrouver une possibilité de mener une vie décente. Voyez, une vie décente, une vie de prospérité, non pas sur le dos des autres, mais une vie décente pour l'honneur de Dieu. Et alors ça, c'est extraordinaire. On voit le jubilé, vous voyez, c'est pas seulement une année où on attend passivement la bénédiction de Dieu, comme on pourrait peut-être le faire. Seigneur, que ce que tu fais, j'attends, je crois en toi. Non, non, l'année du jubilé, c'est une année où on proclame ce qu'on a fait ce matin. La libération des esclaves, la libération des dettes, la libération des dettes. Les dettes, ça peut être quoi pour nous ? C'est les dettes, les offenses qu'on a gardées. Les offenses qu'on a gardées, ça fait partie des dettes, hein. Ou l'offense que tu as faite à quelqu'un, c'est une dette. Libérer le pardon, c'est briser la dette. Ça aussi, Jésus nous l'apprend. Et dans le temps qu'on va voir de Yom Kippour, qui était un temps de jeûne, le Seigneur nous rappelle, voici le jeûne auquel je prends plaisir, écoutez ça. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés. Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? On retrouve l'esprit du jubilé. Hein ? Que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ça nous dit quelque chose dans l'actualité, hein, au niveau des réfugiés, etc. Il n'y a pas tellement le choix au niveau d'accueillir. Et je sais qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de pensées. La Bible, elle est claire, hein. Tu accueilles l'asile, tu accueilles l'étranger. Mais Seigneur, mais tu accueilles. Et donc là, en tant qu'Église, on a intérêt à se poser la question, dans les temps qui viennent, c'est quoi la place de l'Église par rapport à cette actualité aujourd'hui ? Le jeûne d'Ésaïe 58, c'est ça. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Écoutez les promesses. Ta guérison germera. Est-ce que la guérison est liée avec le fait de donner du pain aux pauvres ? Ben, la Bible dit que oui. Il y a un lien direct avec l'onction de guérison. Donc ça me paraît capital. Ensuite, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce qu'il y a un rapport entre la gloire de Dieu et s'occuper de réfugiés? La Bible dit qu'il y a un rapport. Ça, alors là, il y a quelque chose. Et ça, dans le jubilé, c'est l'esprit du jubilé, ça. C'est vraiment l'esprit du jubilé. Et ta lumière se lèvera dans l'obscurité si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Tes ténèbres seront comme le midi et l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera la vigueur à tes membres. C'est des guérisons, hein? Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau, etc. Ésaïe 58. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? En arrivant, extraordinaire, il arrive dans la synagogue de Nazareth, il dit le texte du jour, Ésaïe 61, il commence à lire, et ça parle de quoi? Du jubilé. Et quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, libérez les captifs, renvoyez-lui les opprimés, c'est le jubilé. Quand Marie a prophétisé sur Jésus en disant « Mon âme exalte le Seigneur », il a renvoyé les riches à vide, il a comblé les malheureux. Elle parle du jubilé. Donc Jésus est venu accomplir le jubilé. Donc quand on fête cette fête-là, c'est un principe de Dieu pour activer notre reconnaissance. Il est celui qui nous dit « Publie la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Libère les esclaves ». Et les esclaves de nos jugements, les esclaves de notre indifférence, libèrent les esclaves. Ésaïe 61 nous dit ceci, et il nous dit en même temps, tu vas rebâtir les fondements anciens, les anciennes ruines. Ça, c'est le jubilé. Et moi, je crois qu'en tant que chrétien, on est rentré dans le jubilé. Le Seigneur dit, c'est pour nous, c'est fait maintenant. Je l'ai fait, le royaume, il est là. Et c'est cette fête, c'est le sens de cette fête. Et je termine simplement, vous savez que, on l'a déjà dit, mais jamais dans l'histoire, il y a eu ce qu'on vit comme actuellement, dans les éclipses hein, qui tombent, les éclipses lunaires qui tombent pendant les fêtes bibliques. C'est quand même incroyable. Un alignement astronomique par rapport aux fêtes, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Pâques, avril 2014, 4 avril 2015, chaque fois les Pâques et chaque fois des éclipses. Soukhot, Tabernacle, 8 octobre 2014, 28 septembre 2015, chaque fois des éclipses, au début des fêtes. Et ça continue. Le 1er Jean, Nissan 1, le 20 mars 2015, pareil, éclipse solaire cette fois-ci. Et puis là, la fête des chauffards, 13 septembre 2015, éclipse solaire, pareil. Et il faut commencer à se dire, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, Dieu parle. Que ça tombe pendant les fêtes, c'est comme s'il souligne. Ça parle de moi, revois ce que ça veut dire cette fête. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit quand on creuse la fête? On voit Jésus et son œuvre. Et ça le glorifie. Donc voyez, je termine, bah, c'est ce que j'ai dit quand il y avait le temps là, de louange. Je sentais que Dieu nous dit maintenant commence à dire restitue à l'ennemi qui t'a volé. En tant qu'individu, que famille, que restitue. Parce qu'à cause du jubilé. Parce que le jubilé, parce que Jésus est venu, il a dit c'est maintenant, comme a dit Manuela, c'est maintenant. Donc le temps du jubilé, c'est l'esprit de Caleb qui voit l'héritage. Les trompettes de Jéricho ont sonné, mais il fallait quand même y aller. Les trompettes ont sonné. Et d'ailleurs ces trompettes, je vous rappelle que la Bible dit que les trompettes sonneront avant le retour de Jésus. Pareil, les mêmes trompettes. 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4, Matthieu 24. Chaque fois, les trompettes, les chauffards, sont en alignement avec quelque chose de Jésus, et en particulier avec son retour. Voilà, Anne, je te laisse terminer. Donc vous voyez, c'est des temps particuliers, c'est des temps qui nous parlent de Jésus. Tout nous parle de Jésus, en fait, quand on gratte un peu.
Bonjour. Oui, comme Luc, Manu vous l'ont dit, on est dans des temps très, très, très spéciaux et c'est vraiment important qu'on soit aligné, non seulement avec la parole, mais avec les temps de Dieu, avec le cœur de Dieu. On est dans des temps incroyables. Les astres nous le disent. Et les astres, tout ce qui est lunaire, ça parle d'Israël. Hein, ce qui est solaire, ça parle des nations. On a un calendrier solaire, nous, en France. Les Juifs ont un calendrier lunaire. Et les lunes rouges, ça nous parle d'Israël. Le Seigneur a son cœur, son regard, il regarde vraiment Israël. Et nous, les nations, on regarde où? Et on doit s'aligner, il n'y a pas le choix. Là où est son cœur, là où est son regard, on doit mettre le regard et le cœur. Et je voudrais... Il y a un verset dans Yom Kippour. Aujourd'hui, je suis Rosh Hashanah. On a 10 jours jusqu'au Yom Kippour. On est le 13 septembre. Le 23 septembre 2015, c'est Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier biblique, là où tout s'arrête en Israël. Même maintenant, dans l'Israël moderne, tout s'arrête. Et dans les 10 jours, donc Rosh Hashanah, c'est un jour de fête. Il y a 10 jours vraiment sérieux où on est appelé à faire teshuva, comme disent les Juifs, c'est-à-dire à s'examiner à la lumière de Dieu, comme a dit Luc. Est-ce qu'on a encore des dettes? Est-ce qu'on on a encore des offenses pas pardonnées? Est-ce que voilà, on dit Seigneur, montre-nous. C'est un temps pendant 10 jours aussi, on cherche la face de Dieu. Seigneur, dans ces jours, on cherche ta face, on se rapproche de toi. C'est ce que dit Osée, chercher l'Éternel. Et comme on a dit, Dieu nous appelle à le chercher. Et ça va être lancé dès demain. Il y aura un créneau maison de prière avec Luc et Manu, qui seront tous les deux là, de 10h à 11h30. On va lancer ces 10 jours où on est vraiment à l'écoute de Dieu. Et dans la maison de prière, c'est particulier parce qu'on dit, Seigneur, on est disponible, on est à l'écoute de ton cœur, vas-y, impacte-nous, mais dans notre cœur, ce qui est sur ton cœur. Et voilà, on est disponible. Et on terminera ces 10 jours par la soirée de Yom Kippour le mercredi 23 septembre. Donc on encadre ces 10 jours avec deux temps d'église pour ceux qui peuvent venir. En tout cas, comme disait Huguette, le mercredi 23 septembre, c'est vraiment un temps de convocation solennelle. Et qu'on soit à l'écoute. Et comme a dit Luc, il se trouve que le jubilé, l'année de jubilé, c'est en Christ, c'est tout le temps. Mais au niveau Bible, au niveau des Juifs, c'est une année spéciale, la 50e année, effectivement, elle commence, elle sera proclamée à ce Yom Kippour-là, le 50e année. L'année dernière, c'était une 49e année, c'est-à-dire vraiment une année déjà de Shabbat, une année sabbatique, mais là, ce sera l'année 50e, c'est-à-dire une année de jubilé, dans le sens chronologique, géographique, voilà, c'est l'année de jubilé. Et donc, c'est assez extraordinaire tout ce qu'on va vivre. Et le cœur de Dieu, il est sur Israël, ça c'est sûr. Alors, il y a le verset de Joël 2. Joël 2 parle beaucoup, beaucoup, on ne va pas le lire maintenant, mais Joël 2 parle énormément de Yom Kippour, sonner à une convocation solennelle, que tout le peuple se rassemble. Et bien sûr, on l'a pris pour nous longtemps, mais comme a dit Manu, c'est d'abord Israël. Et ce Yom Kippour, ce qui sonne le début du jubilé pour Israël, c'est d'abord pour eux. Il y a une convocation énorme cette année 2015 pour Israël. Rappelez-vous qu'ils sont cernés de toutes parts. Il y a la menace nucléaire iranienne au nord. La Syrie est en pleine effervescence sur la frontière. D'un autre côté, il y a le Hamas, de l'autre côté, le Hezbollah. Ils sont cernés de tous côtés. Et le Seigneur les appelle à une convocation solennelle. Et nous, Église des Nations, qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez dans Joël 2. Il y a une traduction semeur qui est spéciale dans Joël 2, verset 18. L'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné. Il a pitié de son peuple. Je répète vraiment que Seigneur, cet esprit vient faire résonner cette parole en nous parce que c'est le fond de ton cœur. L'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné. Il a pitié de son peuple. Et voyez, nous, le corps de Christ des nations, et je dirais le corps de Christ de France, on a reçu l'onction de Jean. On nous a dit qu'on avait l'onction de Jean. Jean, c'est celui qui pose sa poitrine sur le cœur de Jésus. Il écoute les paroles, il est dans l'intimité de Jésus, il écoute le cœur même, les battements du cœur, le murmure du cœur de Jésus, il écoute. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu dis? J'éprouve pour mon pays un amour passionné. J'ai compassion de mon peuple d'Israël. Ça, c'est le battement de cœur de Jésus. Est-ce qu'on est cette épouse qui est sur le cœur même de Jésus, avec l'onction de Jean? On est vraiment sur le cœur de Jésus, on écoute son cœur, ou est-ce qu'on est occupé à notre petite chose personnelle, notre petit moi, notre petit ego? Est-ce qu'on est une épouse infantile, une épouse qui s'occupe que de ses petits besoins personnels, ou est-ce qu'on écoute les battements du cœur de Dieu et on dit, oui Seigneur, on veut être cette épouse qui écoute ce qui est sur ton cœur, et maintenant ce qui est sur son cœur, c'est Israël. Comme l'a dit Manu, c'est une priorité. J'aime les nations, j'aime mon église des nations, mais maintenant mon cœur, mes yeux sont sur Israël, c'est l'horloge, c'est maintenant. Je veux ramener mon peuple à la maison, c'est maintenant. Et il y avait une image très forte, vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Joseph avec l'Égypte. Joseph qui a été rejeté par ses frères, il a énormément souffert de ce rejet, mais il a épousé une Égyptienne, Asnath, c'est son épouse des nations, Asnath, il l'a épousée, elle l'a rendu heureux, il a été fécond, il a oublié Manassé, il a eu le premier enfant Manassé, il a oublié ce que sa grande blessure d'Israël. Après, il a eu Éphraïm, il a été fécond dans le pays de son affliction, il a été fécond en Égypte, il aime Asnath, il aime son épouse des nations. Mais à un moment donné, les frères arrivent. Et à un moment donné, c'est la reconnaissance. Et je crois qu'on est à l'aube, on est tout près de ce moment où Jésus va se faire reconnaître. Et pendant le temps d'adoration, je voyais Jésus. Alors imaginez, c'est une image que je vous communique, Jésus recouvert de tous les drapeaux des nations. C'est le Jésus des nations, c'est le Jésus, l'époux de l'Église des nations. Il est recouvert de tous les drapeaux des nations. Et à un moment donné, devant ses frères, il va se dépouiller de ses drapeaux des nations. Et on va voir que derrière, il est juif, complètement juif, 100% juif. Il va se faire reconnaître de ses frères. Et il y aura des cris, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, ce sera un temps incroyable, quoi. Mais Asnath, qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'Asnath, elle est un avec son époux. Elle sait ce que vit son époux, elle est avec. Et non seulement elle est avec, mais avec, par l'intercession, on accélère, on enfante, on coopère avec l'Esprit de Dieu qui veut amener ce temps. On coopère. Et dans ces 10 jours, et spécialement Yom Kippour, on veut être avec l'Esprit de Dieu parce que lui, il veut œuvrer dans la terre d'Israël maintenant, sur Yom Kippour 2015, alors que Israël est cerné de toutes parts, alors qu'ils se posent plein de questions, ils ont ils sont dans des troubles incroyables. Je regardais encore cette semaine, ils savent pas, il y a un grand débat, mais est-ce qu'on doit accueillir les réfugiés syriens? Nous-mêmes, on a été réfugiés, nous-mêmes, on a souffert de ne pas être accueillis. Est-ce que nous, Israël, on doit accueillir les réfugiés syriens? Ils sont en pleine. Ils ne savent plus, quoi. Ils ne savent plus. Il faut qu'ils tournent leur regard vers Jésus. Et nous, l'Église des Nations, c'est important. Et nous, Église de France, particulièrement important. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à être une voix prophétique pour Israël. On est une nation prophétique. On est une voix pour Israël. Cette voix, elle doit jaillir de nous. Elle doit vraiment être entendue. Deuxièmement, eh bien, on accueille la plus grande communauté juive d'Europe, après les États-Unis, qui eux aussi ont un grand mandat pour leur peuple juif des États-Unis. Et nous aussi, on a une grosse communauté juive, elle ne sait plus non plus où elle en est, elle doit rentrer, elle doit rester, qu'est-ce qui se passe, l'Alia, pas l'Alia. On a aussi un mandat de sacrificateur pour le peuple juif qui est au milieu de nous. Et on a un mandat de sacrificateur pour notre propre nation. L'Éternel a dit, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui, c'est pas le même mot, qui sera indifférent, qui te traitera à la légère. Je maudirai. Si nous, on œuvre à la restauration physique, spirituelle, psychique, à la consolation d'Israël, c'est évident que notre nation de France sera bénie. Elle sera restaurée. Et là, un grand appel, notre nation de France. Très grand appel. Elle sera bénie dans la mesure où nous, on se tient avec le cœur de Jésus, sur son cœur, on entend ce qui est sur son cœur, les murmures qui est sur son cœur, on est avec, et on pousse avec, on enfante avec. Et je crois que les femmes, on est spécialement appelées à être dans la maison de prière, à prier, à intercéder, et tout le monde avec, et les jeunes, et les hommes, et tout le monde. C'est une convocation solennelle, comme a dit Huguette, c'est une convocation solennelle. On ne peut pas faire l'impasse. On est dans des temps très, très, très spéciaux. Il y a un énorme appel sur notre pays de France, et on y rentre ou pas. Israël a un appel énorme, on veut être avec. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée cette semaine par rapport à l'appel de la France. Mais je dis, l'appel de la France, il est lié à notre capacité à bénir Israël. Et j'ai su ça par une journaliste israélienne. Alors je regarde, journaliste israélienne, elle parle des réfugiés. Un réfugié, imaginez-vous, palestinien, qui a déjà été quitté sa terre. Voilà, il est parti sur la Syrie. Et maintenant, il doit quitter la Syrie, il est parti sur le Liban. Et du Liban, il est parti en Europe, il comptait trouver un abri en Europe. Ça a été terrible, mal accueilli, très très mal accueilli dans l'Est de l'Europe. Et son rêve à ce Syrien, son rêve avec sa famille, il voudrait aller en France parce qu'il dit la France, c'est le pays de l'amour. C'est le pays, pas l'amour homme-femme, pas ça, mais le véritable amour. Et ce Syrien, ce Palestinien qui vient de Syrie, il dit, mais la France, c'est le pays du véritable amour. Il a ça dans le cœur et c'est une voix prophétique qui nous est rapportée par une journaliste israélienne. Et la France, on est. Voilà, notre vrai appel, c'est d'être manifester l'amour et la compassion de Dieu pour Israël, pour ces Juifs qui ne savent plus où ils en sont, pour les nations, pour les réfugiés. C'est l'appel de Dieu sur nous. La France, c'est une terre de compassion, c'est une terre d'amour. C'est une terre qui est passionnée par l'amour pour Jésus d'abord, et l'amour pour les nations, et l'amour pour Israël. C'est notre appel. Et le Seigneur nous dit, est-ce que tu veux rentrer dans ton appel? Eh bien, sois avec moi pour bénir Israël, sois avec moi. Et vraiment que même si on ne comprend pas tout, qu'il y a une circoncision de notre cœur, qu'on soit sur la poitrine de Jésus, qu'on entende ses soupirs, qu'on entende son cœur, qu'on soit avec, qu'on soit une épouse comme il la cherche partout. Et Seigneur, je vous propose qu'on puisse peut-être prier pour terminer. Seigneur, ouvre notre entendement. Pardon pour notre indifférence, pardon pour notre ego. On est tout le temps à regarder nous-mêmes, nos petits bobos, nos petits machins et... Pardon, Seigneur, pour notre infantilisme parfois. Pardon pour tout ce qui nous retient de recevoir ton cœur. Seigneur, on veut recevoir ton cœur. On veut recevoir ton cœur. On veut regarder là où tu vois. On veut écouter ce que toi tu dis.
On ne veut pas. Libère-nous de nous-mêmes. Libère-nous de notre moi. Libère-nous de nos limites. Fais-nous sortir de nos limites. On est dans des temps tellement, tellement importants. Circoncis notre entendement. Tu vois, tu nous as donné cette grâce de ces 10 jours devant nous. Ben, saisis-nous par ton esprit. Et que nous portes nos regards, notre cœur, là où tu le portes, Seigneur. Tu désires te révéler à ce peuple d'Israël. Tu désires se révéler à ce peuple juif de France. Tu désires guérir les nations, en commençant par ta nation, Seigneur. Alors, que ton peuple, nous, les sacrificateurs, les rois, peuple du roi, des sacrificateurs, on se tienne à la sacrificature, on se tienne devant ton trône, que ce soit chez nous, dans notre maison de prière, ici, mais qu'on se tienne devant toi en disant, Seigneur, fais grâce, Seigneur, et compassion. Parce que tu veux faire grâce, tu veux faire compassion, tu veux avoir compassion, tu veux guérir, tu veux consoler, tu veux restaurer toutes les nations, en commençant par la nation d'Israël. Seigneur, qu'on ne loupe pas le rendez-vous. On veut se tenir pour toute l'Église de France, qu'elle entende l'appel. Elle a un grand, grand, grand appel. Elle a un appel de prophète, elle a un appel de sacrificateur. Elle a un appel de montrer l'amour de Dieu, la compassion de Dieu à toutes les nations. Qu'on rentre dans cet appel, nous, Église de France. Et Seigneur, ce matin, on se tient en tant que Josué pour toute l'Église de France. Et on dit, Seigneur, oui. On répond, oui, oui, oui. On veut aller jusqu'où tu nous emmènes. On veut entendre ton cœur, les battements de ton cœur. Ouvre nos oreilles. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Amen.